musique. Inouï.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
For the local.
Vive mon grand néon. Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
La ville est un trou. La ville est un trou et ses habitants respirent. La ville est un trou et ça respire dedans. Ses voisins, ils sont dedans, sont dans un trou. Ses voisins, ses habitantes et habitants, tous y respirent. Tous les gens dedans, dans le trou. La ville est un trou et les gens qui lisent, ils lisent tous. Tout le monde voudrait lire, tout le monde le veut. Tout le monde, à un moment donné, désire. Tout le monde désirerait parler. La ville est un trou, tous à l'intérieur. Tous les voisins avec le journal. Le journal est un trou, car le trou, c'est tous les jours qu'il est là. Il est dans la ville. La ville est un trou. La ville respire. Ses voisins ont des paroles. Ils voudraient bien parler. Les voisins parlent, ont envie d'avoir des conversations, ont envie de créer des liens. Toute ville est un trou à lien. Toute ville est un trou. Le lien forme le monde. Le monde est liant, est une sauce. Le trou fonctionne. Les journaux sont imprimés la veille. Les journaux sont pour le lendemain. Pour le jour même est un trou, la veille au lendemain, tout est un trou, mais la ville est un trou, et ses voisins tombent dedans, ses voisins font des rêves, ils rêvent qu'ils chutent, ils rêvent qu'ils tombent, mais ils ne se font pas trop mal, ça rebondit, la ville est un trou, les gens rebondissent, ils se réveillent, ils sont dans un trou, mais tout va bien, le journal est imprimé la veille pour le lendemain, entre les deux, c'est le quotidien, entre les deux, les voisins ont le choix, ils peuvent dormir ou tomber, et quand ils dorment, ils tombe aussi, la ville est un trou où tomber. La ville est avec ses habitants et ça respire. c'est tout dedans, c'est respirant. C'est un trou qu'il y a dans tous les habitants. Ils veulent tous parler, ils veulent tous avoir du langage. Ils viennent acheter le journal. Le journal est un trou pour les habitants des villes. La ville est un trou, le trou fonctionne. Les voisins continuent de dormir. Les voisins ont acheté une voiture, ou c'est une mobylette, ou c'est un camping-car. Ils vont sur leur petit terrain, leur petit trou hors de la ville. Mais la ville est un trou, ils y vont avec le camping-car. Ils ont acheté aussi une moto, ils détruisent les arbres. Ils n'aiment pas les arbres avec les fruits dedans, les arbres avec des fleurs, ils n'aiment pas ça. Ils aiment le gazon, ils ont un beau gazon propre et font des sourires en mettant les mains sur les hanches. La ville est un trou. Les voisins ont mis les mains sur les hanches. Les voisins ont mis du PVC, les voisins ont mis des dalles, les voisins ont mis le double vitrage et puis ont fait des trous, ont mis des trous partout. Et puis un jour, le voisin se casse la margoulette. En ville, on sait bien ce que ça veut dire, on lit ça dans les journaux. On lit qu'un voisin s'est cassé la margoulette, ça veut dire qu'il était en moto dans la ville. Il s'est pointé au centre, la ville est un trou et il a glissé. On lit ça dans les journaux ou ailleurs, on le lit dans la ville ou dans les journaux d'ailleurs. Ou alors, on lit ça ailleurs, pas dans les journaux. Mais ailleurs, les journaux sont un trou, et les habitants avec, et leurs pensées avec, et ailleurs aussi, ailleurs est un trou. Ils n'ont qu'une seule pensée, c'est la pensée des habitants du trou, de n'importe quel trou, le trou d'ailleurs ou le trou d'ici. Ils n'ont qu'une seule pensée, et ils se torchent dedans. Un jour, le voisin a glissé avec sa moto. Ou alors c'est sa fille. Il met sa fille sur la moto. C'est un tout petit bébé et pour rigoler, il la met sur la moto et il démarre pour rigoler. Et la moto l'écrabouille, c'est comme ça en ville car la ville est un trou et ses habitants sont dedans et ça rigole et c'est comme ça. Et les voisins respirent. Ils s'imaginent que tous les matins il faut se regarder. Moi, monsieur, je me regarde. Moi, monsieur, j'ose encore me regarder dans la glace. Moi, monsieur, dans la ville, dans mon cabinet. Moi, monsieur, dans mon cabinet, ma ville, ma toilette, monsieur. Moi, dans les toilettes, monsieur, dans les cabinets. Moi, faire ma toilette et après, moi, monsieur, après m'être toiletté. Moi, monsieur, faire le visage dans le miroir et regarder par le trou du visage. Moi, monsieur, j'ai deux trous pour regarder. Moi, monsieur, je dévisage les trous et les habitants sont tous comme ça. Ils sont tous voisins et tout le monde s'ignore. Ils ignorent leurs voisins puisqu'ils le dévisagent et qu'ils sont dans un trou. Et dans un trou, on ignore tous les voisins du monde. Moi, monsieur, dans mon trou, je m'a regardé et je m'a vu. Et moi, monsieur, je n'aime pas les tulipes qui poussent et je vais au boulot. Et moi, monsieur, quand je vais au boulot, je n'aime pas les tulipes qui poussent. Moi, monsieur, je pars en mobylette et moi, je pars en scooter. Et moi, je vais en voiture et moi, je pétarade. Et moi, je démarre au feu vert et moi, je m'arrête au feu rouge. Et moi, je m'en fous, c'est un feu orange. Ou alors, il est rouge, ou alors, je m'en fous. Et moi, monsieur, la ville est un trou. Et il faut faire attention. Il y a une vieille publicité qui le dit. Il n'y a que les voisins de plus de 40 ans qui la connaissent. Peut-être aussi certains ont 40 ans tout juste, peut-être même moins 39 ans. 39 ans dans cette merde, comme ils disent. 39 ans à vivre dans un trou. 39 ans dans un trou à attendre qu'on meure. Ils disent tout ça, les voisins. Ils disent qu'est-ce qu'on attend pour s'endormir. Il y a une vieille publicité qui dit ça, qui dit quoi, qui dit il faut s'endormir. Ou peut-être pas, peut-être elle dit. Et si tous les jours on est dans la même ville et que la même ville est un trou et qu'on a 39 ans et qu'on est dans la merde et qu'on prend le même trajet pour aller du trou au trou, et que même si le trou change pas encore de route, il faudra pas s'endormir car on aura un accident. Moi, monsieur, j'ai eu des accidents, je me suis cassé la margoulette, j'ai planté la bobine et j'ai planté des clous aussi. J'ai pratiqué des trous et astiqué du mou et rebranlé du chef et remonté la pente, puis répété les plans. Moi, monsieur, maintenant je vais beaucoup mieux. Je fais des barbecues pour les voisins de la ville. De la ville est un trou, ce sont de jolies demoiselles et je vais les baiser dans le
le jardin, moi monsieur, ce sont des lesbiennes. Elles viennent toutes les deux des Beaux-Arts et elles baisent et elles me regardent avec les saucisses et ça leur fait du bien.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Alors, nous venons d'écouter Charles Penquin et Jean-François Pauvros parce qu'aujourd'hui, nous recevons Anne Dreyfus et Sheila Ducatar du Générateur, puisqu'on va parler de ce lieu en périphérie de Paris, à Gentilly. Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Le Générateur, alors j'ai lu sur votre site inauguré en 2006, donc assez récemment, hein, il y a moins de 10 ans. Le Générateur est un espace de 600 mètres carrés situé à la lisière de Paris, délibérément ouvert et minimal dans sa configuration. Le Générateur se dédie à toutes les expressions contemporaines et particulièrement à la performance et aux arts plastiques. Il y a la suite que j'aime bien aussi. Le Générateur donne priorité aux productions de formats artistiques atypiques, temporalité, géographie, contenu, il reste ouvert à toutes les formes d'expérimentation multidisciplinaire. Eh bien, il va être question de tout ça dans notre émission. Mais avant tout, je pense qu'on pourrait vous présenter, Anne Dreyfus.
Oui, je suis l'initiatrice et actuelle directrice du lieu artistique. Moi-même artiste, puisque je suis chorégraphe, danseuse, et j'ai avant de lancer dans cette aventure du Générateur, réaliser plusieurs années de création chorégraphique, dont avec le complice musicien et compositeur Jean-François Pauvros, d'ailleurs.
Ah oui, oui, on connaît.
Donc, il n'y a pas de hasard.
Non.
Mais depuis 7 ans, on a comme ça mis en place cet espace. C'est un ancien cinéma de Gentilly, donc c'est au bord de Paris 13e, qu'on a rénové. C'est une initiative donc privée, et c'est mon association, ma compagnie de danse, qui gère depuis et toujours l'activité.
D'accord. J'aurais bien voulu qu'on parle de ta formation, justement, parce que le fait qu'on aille vers de la pluridisciplinarité, moi je me suis dit peut-être que Anne Dreyfus a une formation en art plastique ou...
Non, alors effectivement, en danse.
Oui.
Donc je pense que c'est évident que tout ça transparaît dans ce qui se passe dans ce lieu. Il y a du mouvement, il y a de l'échange, il y a de la rencontre. Et puis, il y a des prises de risques aussi sur un plan des rencontres, des projets qu'on accueille. L'idée, c'est que même le public est en mouvement, en fait, dans la salle, puisqu'il n'y a pas de configuration définie. Il n'y a pas de gradin qui comme ça, pose le public à un certain endroit. Non, les visiteurs, les spectateurs doivent aussi prendre place et participer, en fait, eux-mêmes.
Le public est au même niveau que l'artiste, ils sont au cœur du projet.
Et je pense que, c'est sûr que c'est le résultat aussi de toute une réflexion, toute une expérience de théâtre qui m'ont fait aller vers cette simplicité de regard sur une œuvre, cette idée que les choses se créent ensemble, même si bien sûr l'artiste a un statut bien spécifique vers lequel on peut pas échanger à un moment, mais néanmoins cette fluidité au sein de l'espace, cette mobilité évidemment reliée à mon goût pour le mouvement depuis toujours et au déplacement des choses.
Mais ça a été conçu dès le départ dans le projet du Générateur, c'est-à-dire parce que tu disais que c'était un ancien cinéma, donc j'imagine qu'il y avait des chaises et tout
en
ça.
En fait, c'était plus histoire. Un cinéma depuis plusieurs années. C'était un local de stockage de quincaillerie, donc reste que la façade essentiellement qu'on a donc qui est toujours existante, pur jus années 30. Ouais. mais l'espace à l'intérieur, au début, on pensait vraiment faire plutôt un lieu dédié aux arts plastiques. On se disait un beau white cube, allez, de temps en temps, on va faire une petite expo avec une grosse sculpture au milieu, et puis pour se faire plaisir. Et puis en fait, chasser le naturel revient au galop. Tout de suite, j'ai été amenée par des amis. Une amie a présenté pour l'inauguration Nuit Blanche une performance d'Anna Alprin, qui est quand même une pionnière de la post-modern dance américaine. Donc la danse est revenue vers moi, mais sous une autre forme, celle de la performance. Enfin, alors évidemment, en anglais, ça a un sens. En français, je dirais qu'aujourd'hui, ça n'en a plus. Oui. Tout le monde déplore cette espèce de mots maintenant. Tout le monde s'empare et sans plus vraiment contenir quelque chose de... Tout est très précis dans ce qui se passe finalement dedans, mais le mot lui-même est un petit peu là devenu obsolète.
Ah, puis je dirais que même sur Radio Libertaire, on l'aime pas tellement ce mot performance, hein, parce que c'est ce à quoi tend notre société capitaliste. Il faut qu'on soit performant. On est nous-mêmes le.
C'est l'ambiguïté du terme à la base. La performance, c'est de l'histoire de l'art. C'était des plasticiens qui souhaitaient utiliser leur corps comme médium, et aujourd'hui, on se retrouve avec des artistes qui sont issus plutôt du théâtre ou de la danse qui utilisent. La performance, donc il y a un peu tous les champs artistiques qui sont croisés.
Ouais. Charles Pennequin fait aussi, en quelque sorte, mais c'est de la poésie-action. Ouais. Je pense que justement, on en discutait hier soir avec lui, et je pense que moi, ça m'ennuie beaucoup. Hein. Oui. J'aimerais vraiment trouver, c'est art-performance en fait, ou art-action, ou gesticulation, nouvelles écritures en fait. Mmh. C'est plutôt ça qui se passe hein, au générateur en fait.
Surtout avec Frasque où finalement tous les artistes se re-questionnent un petit peu ce qu'est le mot performance, très proche de la vie. Voilà, c'est un peu toutes ces questions qui se posent.
Mmh. On reviendra sur les performances, sur la performance, enfin l'art performance plus tard. Sheila, je voulais savoir aussi ta formation.
Alors, moi je suis arrivée déjà au générateur il y a 2 ans. Mmh. Avant ça, j'avais fait une école médiation et financement de la culture. Oui. Et donc, je suis débarquée au générateur en stagiaire. Et puis, on a fini par...
Assez vite,
à se comprendre aussi autour du projet, parce que c'est quand même un lieu particulier. Ouais. Et puis un peu à se créer des affinités, parce que c'est une fine équipe. Voilà,
tu me tends la perche là. Vous êtes une équipe restreinte, je crois. Vous êtes trois.
Oui. Trois, ouais, tout à fait. Donc il y a Anne à la direction, Amandine, ma collègue, à la production et administration, et moi-même en communication et partenariat.
Ouais. Et on a un intermittent de temps en temps. Maintenant, on commence à structurer plus en plus pour la technique.
Ouais. Ah oui. Parce que en fait, dans le monde du spectacle vivant, il y a une question qui se pose entre la partie administrative et la partie artistique. On confie souvent des maisons, des grands théâtres, des CDN et tout ça à des artistes. Et je crois qu'il y avait un mouvement récent qui les gens se posaient la question, mais on devrait peut-être plutôt confier ça à des administrateurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Qu'est-ce que j'en pense? C'est le reflet de notre société, sans doute aussi. Maintenant, même dans les écoles de commerce les plus prestigieuses, il y a des départements liés, orientés vers la culture. Oui. HEC, tout le Louvre est fait d'une cohorte de jeunes HEC, parce qu'il y a des enjeux économiques tels dans ce type de structure. Ce qui n'est pas le cas du générateur. Hein. Il y a des enjeux économiques, je m'y colle tout le temps. C'est sûr. Des grosses, grosses bagarres, combats à obtenir pour avoir un minimum de sécurité, juste de l'emploi, hein, essentiellement. Hein. Non, la séparation artiste-administrateur, je pense que ça dépend du projet aussi, mais en soi, c'est sûr qu'un artiste apporte quand même une dimension, une couleur artistique de programmation qui, si elle est menée vraiment jusqu'au bout, me semble beaucoup plus riche. Après, elle peut être discutable parce qu'il y a de la subjectivité dans l'artistique. Mais en même temps, au moins, elle a une couleur et elle n'est pas liée uniquement à des problèmes de marché. Oui. Donc, c'est sûr que le générateur est dirigé par des artistes. Moi, pour l'instant, évidemment, beaucoup. Et ça transparaît sur tout ce qui s'y passe.
Tu parlais de la création. J'aimerais bien peut-être un peu approfondir. Qu'est-ce qui, donc, si je comprends bien, c'est le lieu qui a servi de, je sais pas, de salle de répète, j'imagine.
Pour ma compagnie.
C'est ça.
J'ai 25 ans de carrière, enfin de compagnie avec des créations tout le temps. J'étais en résidence dans le Val-de-Marne déjà. Ah oui. Donc quand je suis arrivée à Gentilly, ils se sont dit « Oh là, elle va faire un centre de danse ». Enfin, j'avais déjà une réputation en tant que chorégraphe dans la danse contemporaine. J'ai été soutenue très longtemps par le Val-de-Marne, le département, enfin donc voilà. Et puis en fait, quand on a commencé à faire une programmation, là, ils ont un peu halluciné parce que c'est pas vraiment du tout un centre de danse. C'est pas que j'ai mis la danse de côté, mais je suis arrivée aussi à un moment où j'avais fait mes preuves à moi-même, hein, c'est en tant qu'artiste, et j'avais envie d'ouvrir mes portes et sentant que il y avait même parmi ceux que j'ai beaucoup enseigné aussi, mes élèves qui devenaient eux-mêmes créateurs et les technologies arrivant aussi de plus en plus à un niveau individuel facile, il y avait tout une évidence que un artiste ne pouvait pas, n'était plus seulement qu'un danseur, un musicien qu'un musicien, mais il y avait la vidéo, il y avait cette multidisciplinarité qui était évidente à mes yeux, donc un espace vide, un laboratoire, un tube à essai, un cadre solide pour des choses vulnérables.
Et parmi ses élèves, il y avait eu François Chéniaud.
Oui,
d'habitude. Ouais.
La question de l'enseignement m'intéresse aussi, mais là tu viens de parler d'un truc, c'est ce lieu vide. Alors effectivement, ça frappe quand on rentre dans le générateur. J'aimerais bien qu'on le décrive, enfin tout simplement.
Ouais, c'est un espace qui est assez atypique, qui ressemble effectivement à un white cube, comme dans une galerie où effectivement tous les murs sont blancs. C'est minimal dans le sens où c'est vide, effectivement, quand on y rentre. Donc c'est un grand espace de 400 mètres carrés, béton, un peu
vernis
quand même, qui soit
mur blanc, effectivement.
Mur blanc, béton au sol. On voit les tuyaux, enfin voilà, c'est un peu
rough, mais polissé, urbain, enfin quand même métal.
Du coup, ça donne une architecture assez solide pour des projets qui peuvent être parfois fragiles. Ça, voilà, ça concentre un peu les tensions et les sensibilités, comme on se retrouve tous ensemble en fait pour des propositions artistiques différentes.
Avec un grill technique qui est quand même celui qui équivalent à celui d'un théâtre. Donc on peut mettre des projecteurs partout au plafond.
Ah, et oui, projeter d'accord. aussi sur les murs aussi. Ouais.
Il y a absence de mobilier aussi en dehors de ces...
À part le hall.
Mais je veux dire, dans la grande salle, il y a des petits coussins.
Oui, pour le public, il peut s'installer sur les mousses, effectivement. Il peut même s'y allonger lorsqu'on fait des séances un peu électroacoustiques. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable.
Il n'y a pas de siège, quoi.
Il n'y a pas de gradins. D'aspect frontal, binaire, comme dans un théâtre.
Et c'est là que je voulais en venir aussi, sur l'aspect frontal. Qu'est-ce qui... Ouais, pour une danseuse en plus, c'est... Enfin, bon, tu l'as un peu expliqué, mais c'est quand même un drôle de parti pris, ça. On ne met pas de scène, pas de gradin. Qu'est-ce que ça change par rapport aux spectateurs ? C'est le mouvement, simplement, ou...
Oui, après il y a des tas de choses au générateur qui se passent parce que l'artiste a besoin que ça soit frontal, et c'est tout à fait respecté. Hein. Mmh. Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus un dogme en disant, ça ne doit pas être frontal. Mais ça peut être, effectivement, le public peut circuler autour ou changer de place parce que l'artiste fait des choses différentes à un endroit ou à un autre de la salle. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'estrade, pour moi, c'est... au départ, c'était intuitif. Tout ça, ça s'est fait de façon empirique sur une expérience personnelle qui était que j'avais souvent beaucoup plus d'émotions à assister aux répétitions avec mes danseurs quand ils exécutaient une de mes chorégraphies ou qu'ils improvisaient devant moi, que quand on se retrouvait finalement sur un plateau dans un théâtre, etc. Où là, on est devant quelque chose de lisse, qui est parfait, un objet de consommation qui peut être fantastique. Hein. Je continue quand même à aller régulièrement aussi voir des choses dans des vrais théâtres. Mais il semblait intéressant justement désacraliser ce rapport comme ça, sans pour autant permettre à ce que fait l'artiste ne soit pas respecté. Et je pense qu'il l'est encore plus parce qu'il y a une proximité de personne à personne. Et on assiste vraiment, à chaque fois on est surpris de voir à quel point le public... Et finalement, très timoré, très respectueux, n'ose pas bouger. On a beaucoup de mal à le faire bouger. Et c'est normal. On n'est pas agressif avec lui. On n'a pas du tout envie de l'obliger à quoi que ce soit. Mais le fait de partager le même sol a une charge émotive qui est là et qui permet à une personne de s'identifier à l'autre directement, en fait.
Bien, d'accord. Bah, c'est un petit
au
peu...
sens propre, symbolique et au sens figuré.
Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de casser ce rapport avec le spectateur? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai vu pas mal ces derniers temps, ça se fait beaucoup maintenant, de faire monter les spectateurs sur le plateau. Donc là, effectivement, il n'y a même plus besoin de le faire monter, puisqu'il n'y a pas de plateau. Quoi,
voilà.
En gros, quoi.
Voilà.
Mais qu'est-ce que ça signifie, quoi, par rapport à l'histoire du spectacle vivant ou de l'art? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Pourquoi on fait ça, quoi?
Ben, je pense que on est peut-être on sent bien, et moi aussi, c'est face à... C'est un grand mot, mais il est réel ce mouvement, cette mondialisation, oui. Cette uniformisation des choses, ce conformisme, ce mainstream de pensée, de choses qu'on voit en premier lieu dans toutes les communications, la publicité, dans les antennes, etc. Je pense qu'il y a une volonté, enfin il y a un désir, un besoin aussi de revenir à quelque chose de beaucoup plus local, beaucoup plus individuel,
humain.
Oui. Et c'est finalement, il s'avère que c'est une façon d'affirmer cette qualité qu'il faut évidemment la plus précieuse pour tout être humain et vivant sur cette terre. C'est d'être, d'avoir un échange sensible avec qui peut être d'ailleurs troublant, hein, et le public qu'on accueille régulièrement, Générateur, qui nous aime beaucoup, sait très bien qu'il ne va pas forcément être à l'aise, mais ouais, ça va le questionner, en tout cas.
Il ne restera pas indifférent, voilà. Il va venir questionner, il va rencontrer l'artiste par la suite, il va discuter avec l'équipe. Il y aura un échange, il y aura même des débats, mais voilà, ça reste quelque chose de l'ordre de la rencontre humaine. On est libéré de toute consommation, on ne vient pas acheter un billet de spectacle, quoi.
Mais est-ce qu'il y a une volonté, alors je ne sais pas si on peut dire une volonté, mais le spectateur qui vient, est-ce qu'il est un petit peu en danger? Il se dit, enfin ça dépend bien sûr des propositions, mais est-ce qu'il se dit, oh là là, on va me faire participer par exemple?
Non, il n'y a pas ça.
Il est libre de ce mouvement quand même.
Et puis, alors pour démarrer toute soirée, on a mis quand même tout... pas mal d'efforts pour que l'accueil soit très chaleureux. Enfin, chaleureux, ça, je ne sais pas s'il l'est.
Du mieux qu'on peut.
Le mieux qu'on peut. Il y a une buvette. Il y a un temps, les gens peuvent discuter. Maintenant, on a même une petite restauration. Donc, ça permet justement de créer un sas avant. Et puis après, un temps où les gens peuvent rester et justement échanger sur ce qu'ils ont ressenti. Et ça crée comme ça vraiment quelque chose d'assez spécifique, j'ai l'impression, au Générateur. En tout cas, les retours qu'on a,
c'est un bol d'air de venir ici. Enfin, retour du boulot, ils viennent d'abord se poser effectivement à l'accueil et puis après participer.
Peut boire un coup, bon, ça aide pour commencer.
Ça aide.
C'est sûr. Vendredi soir, ça fait du bien.
Et puis c'est pas cher.
C'est pas cher, non. C'est vraiment accessible aussi, c'est une volonté de rester accessible.
Ah oui, c'est clair. Tu parlais du public, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de Gentilly ou est-ce qu'on vient de Paris? Ça m'intéresse aussi, du fait que c'est vraiment pas très loin de Paris.
Non, on est vraiment aux portes, on est à quelques mètres du 13e, effectivement.
Sauf que c'est quand même dur de franchir le périph'.
Tout à fait, mais en fait, il y a deux ans, en arrivant au lieu, je pensais que le défi, ce serait de ramener des Parisiens, mais en fait, 80% largement sont des Parisiens, en fait.
D'accord. Ouais.
Ceux qui fréquentent le Générateur sont Parisiens. Après, petit à petit, on a réussi aussi à toucher le public local sur des projets assez concrets. Ou parfois il y a des collaborations en fait avec les artistes, avec des associations locales, et ce qui a forcément tiré un peu le public à découvrir le lieu. Il y en a d'autres aussi qui connaissaient le Générateur en tant qu'ancien cinéma, donc il y a les retraités qui en parlent comme ça à leurs petits-enfants. Enfin voilà, il y a de belles histoires comme ça qui reviennent et ils se disent bon bah qu'est-ce qui est devenu ce lieu, j'ai envie de le découvrir. Voilà, on a une belle relation aussi avec la ville et les services municipaux qui nous permettent de communiquer aussi auprès des habitants. Donc c'est sûr que c'est plus ponctuel, Mais
oui, la réputation du générateur, c'est bon, il se passe des choses bizarres,
oui, c'est ça,
mais
c'est
ils sont très sympas. Donc, voilà, il y a des projets, au moins quelques-uns par an, où je dirais c'est complètement accessible, oui. Et même on les pousse à participer ou à venir. Ouais. Là, il va y avoir à la fin là de Frasque le bal rêvé d'Alberto Sorbelli. Mmh. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment un projet qui s'ouvre et qui a besoin des gens, des habitants, des vrais gens, pas des artistes ni de la communauté qui consomme de la culture.
Oui, ouais, c'est ça. On est, enfin, je ne sais pas ce qu'il en est, hein, mais est-ce qu'on est... Parfois, j'ai vu dans des lieux comme ça, dans des festivals, on est un peu entre soi, quoi.
Complètement.
Au bout d'un moment, quoi. Et est-ce que un des moyens d'ouvrir, c'est pas justement ce dont tu parlais, l'enseignement, alors
l'action culturelle. Après, on en fait naturellement. La limite, elle se pose avec nos finances. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est une toute petite équipe. Donc, quand il y a une expo d'art plastique, on fait des visites.
Visite et atelier.
Avec des scolaires, j'imagine.
C'est ça, en fait. Ouais. J'appelle les établissements scolaires pour les lycées pro et les collèges. Ouais.
Mais après, tout ce qui est véritablement action de sensibilisation, on ne peut jamais s'inscrire dans certains dispositifs qui permettent des financements, parce que c'est toujours des projets qu'il faut pouvoir prévoir au moins un an et demi à l'avance. Et pour le coup, nous, on ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'effectivement, la programmation, en gros, elle se fait quand même à peu près un an à l'avance, mais il y a plein de choses qui bougent encore 3 mois avant.
D'accord.
Donc, ça ne nous permet pas d'être soutenus par les différentes tutelles qui sont dans l'éducation ou par rapport aux établissements scolaires. Mais il y a des projets d'artistes qui intègrent et ont comme matière même le contexte local et les habitants.
Ah ouais.
Et même l'enseignement, puisqu'il y a pas mal de collaborations avec des écoles d'art.
Oui, tu as raison.
Ouais. Donc, du coup, et des projets comme ça d'artistes où ils font appel à des étudiants en art.
Ah oui.
À Charles, justement.
Notamment Charles.
On en reparlera tout à l'heure. Je propose de faire une pause musicale, bien puisque vous parliez de Charles. On va continuer à écouter Charles Penquin.
Un jour, mon père, il pose son sac contre la porte. Un jour, il part tous les matins travailler. Un jour, il prend le bus pour Denain. Un jour, il me ramène des bonbons de l'usine. Un jour, il balance sa canette sous la table. Un jour, il me voit sur la palissade. Un jour, ma tante se fout de sa poire. Un jour, il ramène que son pinard des courses. Un jour, je le vois en bas de la rue Neuve. Un jour, ma mère planque les bouteilles. Un jour, ma sœur dit qu'il est gentil. Un jour, ma mère, elle lui sert à rabord. Un jour, il caresse son chat dans son fauteuil. Un jour, je tape sur des bidons. Un jour, il met un cendrier en dessous de son verre. Un jour, il minote, fais pas ça. Un jour, il dit des choses compliquées. Un jour, il met du charbon dans la chaudière. Un jour, il monte les escaliers. Un jour, il m'achète des dictionnaires. Un jour, il revient sur la discussion. Un jour, il fout le camp pendant la noce. Un jour, il me fait un laïus sur les vitamines A, B, C, D. Un jour, il essaie son patois avec un voisin. Un jour, je repousse sa main dans la voiture. Un jour, il trifouille avec ses bobines de ficelle. Un jour, je déterre la poupée de ma sœur. Un jour, je lui dis ouais. Un jour, sa mère l'endort avec ses histoires. Un jour, il met un temps infini. Un jour, il se lave avec son gant de toilette. Un jour, il est en bleu avec sa casquette et ouvre la bouche. Un jour, il rattrape la goutte au nez avec sa main. Un jour, il a les veines sur son visage. Un jour, il regresse encore son fusil. Un jour, il me parle de ma mère. Un jour, jour, il se sauve chez Tante Marthe. Un jour, il ramène des pommes dans sa brouette. Un jour, il croise les mains sur son ventre. Un jour, il revient tous les jours cuit. Un jour, il dit j'ai pas de chair. Un jour, il me fait des mimiques. Un jour, il corrige les fautes de français. Un jour, il arrête pas de se taire. Un jour, il met les trucs ultra lentement. Un jour, je récite un poème de Maurice Fombeur. Un jour, il reste en plein devant la télé. Un jour, le chat est sur ses genoux. Un jour, il plie ses jambes dans la quatrelle. Un jour, je vois l'homme qui rétrécit. Un jour, il se fait griffer par maman. Un jour, il perce le cœur de l'araignée avec une épingle. Un jour, il fume sa cigarette et pense. Un jour, ça sent les pois cassés. Un jour, il dit touche pas, tu vas tout casser. Un jour, les escaliers craquent tout le temps. Un jour, maman dit encore j'ai déjà salé. Un jour, je vois la terre de près. Un jour, il est tout flou derrière du linge. Un jour, il croise les jambes dans la cuisine. Un jour, tonton parle de la gorge. Un jour, je vois l'ombre du voisin. Un jour, mon père tourne autour des pommes. Un jour, mon frère se sauve des cabinets de toilette. Un jour, ma mère dit « aïe, 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 laisse tomber, va !»
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Non, vous n'êtes pas le samedi soir. Nous ne sommes pas le samedi soir dans Hôtel Paradoxe. Excellente émission, excellents camarades de Hôtel Paradoxe. Je dis ça parce que nous recevons dans les oreilles libres aujourd'hui Anne Dreyfus et Sheila Ducatard du Générateur. Et c'est vrai que vous êtes partenaire un petit peu avec cette émission.
Oui, ça fait partie des projets qu'on a... Enfin, en fait, on a accueilli des performances d'Aurin Laloy, qui gère l'émission. Et puis, petit à petit, il y a eu des émissions qui ont été montées avec des artistes qui étaient programmés sur Frasque. Et on se dit, bon, soyons partenaires pour la vie.
Il y a même eu une émission
enregistrée.
Bunker Paradis.
Paradis, c'est extraordinaire.
On embrasse Aurore et les camarades de l'Hôtel Paradoxe. Donc, un samedi soir sur deux.
Oui, à partir de 23h.
23h sur Radio Libertaire, évidemment. Ça ne peut être que sur Radio Libertaire. j'aimerais bien qu'on parle de la performance. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Le terme est peut-être un petit peu chiant, c'est vrai. Tu parlais des origines anglaises du mot, mais peut-être on peut quand même esquisser, peut-être une histoire ou comment...
Bon, là, je pourrais pas...
C'est long, hein, ça.
Je n'ai pas du tout la formation d'historienne, mais de l'art. Mais performance en anglais, ça veut dire spectacle, hein, c'est l'art vivant. Donc déjà, on est sur cette espèce de malentendu, puisqu'en France, pour le coup, performance, c'est un exploit, physique ou intellectuel ou...
Économique.
Économique. je pense que c'est issu d'abord des plasticiens, quand même, cette expression, c'est forgé, mais bien avant aussi. Je me souviens d'un article là, dans un numéro qui est actuel d'Art Presse de Jacques Linco, qui retrace très bien, qui va bien plus en amont. Des sources de la performance, elle les situe même au niveau à l'époque du Bauhaus, où il y avait déjà quand même des écritures multi-transversales entre les arts et des expériences, des expérimentations à haut risque, la musique, le théâtre, le texte. Ensuite, bien sûr, il y a tout le mouvement américain... dans les années 50 et en France aussi.
Fluxus.
Je
pensais à Dada aussi, même en
termes de. Oui, tout à fait.
Pour moi, descriptions que j'en ai lues dans le bouquin de Maurice Nadeau, l'histoire du surréalisme. Ça fait penser à ça.
Complètement. Ouais. Puis le Black Mountain aux États-Unis avec la Monte Young, Yvonne Rainer et en France. Et puis après la technologie aussi qui arrive de la vidéo, qui a aussi été vraiment un outil tout d'un coup très 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 important dans l'apparition de des formes performatives. Donc aujourd'hui on est bien sûr le résultat, on a d'autres formes qui apparaissent, et c'est bien normal, ça n'arrête pas de se métamorphoser. J'aime bien là aussi ce que je viens de lire aussi de Virginie Despentes avec un dialogue dans le monde qui avait été transcrit avec Madame Toubira. Où elle dit, elle parle de la littérature, mais je me suis dit, on remplace littérature par performance, de dire, bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est que la littérature, on s'en fout, parce que ça coûte pas cher, il n'y a pas de marché, en gros, autour, donc grâce à ça, alors si on mettait performance, c'est un peu la même chose, grâce à ça, on a uniquement comme limite sa propre limite à soi, et c'est encore un espèce de sphère où il y a de la liberté.
Ah oui,
et on manipule ça, j'espère, le mieux possible au générateur. On est dans un contexte, nous, de production très low, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. On propose, par contre, un cadre, disons, d'un niveau vraiment fort.
Ouais.
Donc, il y a ce paradoxe, cette contradiction aussi dans le projet du générateur. On accueille de la performance, alors on va en reparler, ou des propositions d'artistes, d'écriture qui défrichent, qui vont sur la marge pour aller plus loin ou moins loin. Enfin, ça c'est. Oui, la performance c'est quelque chose d'insaisissable parce que justement il n'y a pas d'économie réelle. Et à partir du moment où il y en a une, elle peut certainement mourir aussi. C'est plus de la performance, hein, puisqu'il s'agit d'un acte éphémère avec très très peu d'apparat ou scénographie.
C'est donc ça la caractéristique, quoi, un art éphémère. Est-ce qu'il y a forcément la présence d'un corps non.
Si.
Si.
Si. Si. Ah. Il faut que l'artiste soit là.
Ah tiens, ah ouais.
Ah oui, oui, oui.
Ouais.
Art action,
d'accord, ouais,
conférence, performée,
même quand il est musicien,
vidéaste qui manipule en direct des objets,
ouais.
Aussi.
Je pensais justement à la vidéo qu'on pouvait imaginer des installations, mais là on n'est plus dans la performance.
Bah, c'est justement là où, en tout cas pour Frasque et puis en général, il y a vraiment pas de limite.
Il n'y a pas de recette.
Je ne dis pas, voilà, non, ça, ce n'est pas bien, ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où l'artiste est quand même... Alors, évidemment, il doit être en présence. Et puis, il défend une certaine, c'est sûr, sensualité par sa présence. Un message qui est physique, de façon plus ou moins directe ou transposée. Mais il est là. Ça, c'est quand même une des données. Après, il va faire de la vidéo, il va faire de la musique, il va pas seulement faire jouer d'un instrument, mais il va peut-être faire appel à de la danse. Alors tout ça aussi, ça peut paraître très classique comme ça, mais en même temps, pas du tout. Ça dépend du sujet, puis ça dépend du parti pris, du concept, du projet qui peut, par exemple, se dérouler pendant 8 heures. La durée aussi, l'espace, le temps, sont aussi des facteurs de nouveauté, entre guillemets.
C'est vrai que c'est quand même dur à expliciter. Quoi. Pour moi, il y a aussi une notion d'action.
Oui.
Et puis,
il y a une dimension politique aussi.
Ah bah écoute, oui.
Ah bah certainement.
Tu peux nous expliquer ça m'intéresse.
Bah, disons que c'est sûr qu'aujourd'hui,
on a moins de problèmes que les années 60, c'est ça?
Ah non, si, je pense qu'on en a d'autres, mais on a peut-être moins des problèmes comme ça clairement posés. Hein. Oui. On n'est plus non plus dans une société où il y a l'autorité et puis elle est là, l'autorité. Mais,
elle est plus insidieuse.
Elle est plus insidieuse. Ah, oui. On est tous anesthésiés quand même de façon indirecte ou directe. On le ressent tous dans nos vies. On est manipulé par des grands mouvement, le web, c'est génial. En même temps, c'est aussi... faut aussi s'interroger
sur ce
qui
s'y
passe.
Oui.
Voilà. Donc, les artistes, aujourd'hui, ils peuvent plus, on va dire, avoir des formes aussi radicales que dans les années 60, où il y avait aussi toute une revendication féministe, raciale. Il y a tellement de possibilités d'exprimer ça aujourd'hui, un réseau mondial qui est disponible finalement aux artistes. Donc tout ça, ça reconfigure la forme que va avoir au générateur une performance. Donc, mais c'est ça aussi, peut-être au départ, qui m'intéressait beaucoup, c'est que dans l'art action, il y a une dimension politique, sociale, parfois qui est hyper, nécessaire et pertinente d'avoir aujourd'hui. Enfin,
Ah oui.
L'écriture même d'un artiste peut être très très déstabilisante en fait.
Ouais.
Parce que elle touche à des choses en profondeur hein, sur nos modes de pensée, sur notre façon de voir une chose cause à effet, enfin, etc. C'est mettre en lien des éléments qui sont...
En fait, ça toucherait peut-être plus en profondeur que sur des sujets qu'on peut facilement voir aux journaux et qui vont reprendre, quoi. C'est vraiment...
La forme artistique, dans le meilleur des cas, en fait, intègre des questions de fond sur notre société, sur notre façon de consommer la culture, sur notre façon... Notre position de spectateur, etc.
C'est vrai que moi, intuitivement, je sens ça aussi, la critique politique, mais je n'avais pas trop la mettre en forme. Moi, je pensais aussi au fait que par rapport au marché de l'art, on n'a pas un tableau qu'on vend, avec du pognon.
C'est insaisissable.
C'est complètement insaisissable, puisqu'il y a, comme tu dis, il y a la présence de l'artiste.
Alors aujourd'hui, Marina Abramovic, en l'occurrence, par exemple, et d'autres se posent, et c'est normal, la question de la transmission de leur œuvre. En performance. Donc il y a des protocoles, il y a des partitions qui se transmettent. Ils ont certains aussi une double activité avec de la photo, de la vidéo, des dessins pour quand même réussir à économiquement survivre, tout simplement. Ou ils enseignent. Mais c'est sûr que ça reprend vraiment les mots de Virginie Despentes, c'est dire il n'y a pas d'économie, donc on s'en fout, quoi. Et en même temps, c'est un havre de liberté, mais ça a un coût très très fort, très très élevé pour les artistes qui la pratiquent, parce que on les voit et c'est extrêmement difficile comme choix de vie. Être artiste, c'est jamais non plus.
Mais là, en l'occurrence, c'est encore pire. Et justement, à propos de ça, je me demandais si au générateur, vous aviez, alors ma question du coup, est-ce que vous aviez un fond ou comment dire un fond documentaire, ou est-ce que vous gardiez des traces de ce qui se passe chez vous?
Oui, tout. ça fait partie en fait de l'accompagnement. Qu'on propose aux artistes, au-delà de la production, de la direction artistique, dans leur accompagnement, il y a aussi tout un aspect communication ou stockage des images et des vidéos, parce que tout est filmé et capté, en fait. C'est une volonté, justement, de saisir l'insaisissable, de fournir aussi à ces artistes un moyen pour eux déjà d'avoir des archives, mais aussi de par la suite monter des projets, d'avoir une documentation de leur performance. À terme, on essaye aussi de monter des projets pédagogiques qui peuvent être
liés à ça. On se heurte, comme beaucoup de structures même beaucoup plus prestigieuses que nous, à la gestion, la bonne utilisation d'archives, c'est un poste en soi presque complet. Parce que ça nécessite du temps, donc nous on stocke, des disques durs, mais on n'a absolument pas le temps de
les diffuser,
ou d'en faire un montage
à la rigueur, comme c'est le temps fort et qu'on se rend compte que c'est important aussi pour le public de voir les choses, effectivement pour phrase qu'on y met les moyens et le temps, mais après pour le reste de l'année c'est vrai qu'on a encore du mal à diffuser. C'est sûr qu'on adorerait installer comme au CND une bibliothèque.
Ça fait partie comme ça des projets. Mais à choisir, c'est toujours pareil, entre le présent et le futur et puis le passé, moi, il n'y a pas d'hésitation.
Je suis pas faite pour...
Mais on a, comme il y a cette technologie, on l'utilise. Au niveau des photos, on en a beaucoup d'utilisation pour promouvoir le générateur. Toi, tu distribues, partages beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est hyper important.
Je propose une troisième pause musicale.
Alors, David Noir.
Allez.
Christophe. Alors, c'est une découverte, en fait. Il nous a envoyé ça juste avant Frasque. Donc, ça fait partie, en fait, de ses propositions artistiques où il mêle autant, on va dire, théâtre, la musique aussi. Donc, il s'accompagne beaucoup d'artistes sonores et lui-même chante. Donc,
ah oui,
on vous laisse découvrir ça.
De recherche, du jour au lendemain, nous faudra-t-il chanter la terre nourricière, en collant de fines, coiffé de mon grand casque à cornes de bélier, jambes roses, je bave dans la nature morte, et sur la route fardée. Loin des rodéos, je m'absente, mais les absents tort. Et la guerre de Sarah, elle me narrage. Finalement, Dieu ne m'aura pas grondé. Théâtre des opérations, à composter dans le fumier. Dégazer les plateaux, dans la mer où moi j'ai fumé. Le pur air, à qui ne peut se comparer. Ont clamé les pigeons, les voyageurs, pour toi, la vie du rail, le pont comme nous, jusqu'aux cieux, dans la nature mouillée. Je vous crie en retour, contempteur, zélé, loin des rodéos, je m'absente, mais les absents, inactifs, fermentés, pomme, cul, finalement, Dieu tonnerre ne m'aura pas grondé. Mon sourire est fané, dégoûté. J'aimerais tant me forcer, pourquoi l'avis du rail apparaît, trop de matière, pourquoi l'avis du rail apparaît, trop de matière, pourquoi l'avis du rail apparaît, trop de matière, trop de matière, loin des odéons, je vous crie en retour, contempteurs zélés. Que dedans votre fiente, mon inactivité fermentée a coulé. Pomme cul, pomme rat. Mon sourire effacé, dégoûté. J'aimerais tant forcer à quitter mon application de gentil gars au rictus noué. Perforation. Vulve républicaine. C'est de ta fente que mon pinceau m'a sointé. Trop de matière vagissante, loin des odéons menés. Collant de fines, coiffé de mon grand casque à cornes, de bélier, jambes roses, sur la route fardée, loin des rodéos, je m'absente, mais les absents tort, et la guerre de Sarah, elle me narrage, finalement Dieu ne m'aura pas grondé. Théâtre des opérations, dans le fumier, dégazer les plateaux, dans la mer où moi j'ai fumé.
le pur air, pur athée ne peut se comparer, clamer les pigeons, clamer les voyageurs, prévoyageurs. Pour toi, la vie du rail, la vie du rail, apparaît.
Pour toi, la vie du rail apparaît.
Ne compte plus comme nous, plus comme jusqu'aux cieux t'envoler.
Je vous crie en retour, contempteurs zélés, que dedans votre fiente, mon inactivité fermentée a coulé. Pomme cul, pomme rat, pomme cul, pomme rat, pomme cul, mon sourire effacé, dégoûté. Tant forcé à quitter mon application de gentilica au rictus noué. Perforation. Vulve républicaine. C'est de ta fente que mon pinceau m'a sointé. Trop de matière vagissante, loin des odéons menés.
De recherche.
Voilà, c'était David Noir sur Radio Libertaire, l'émission Les Oreilles Libres, et nous recevons le générateur aujourd'hui. Alors, peut-être on va parler de la programmation du générateur. Et ben, tu nous disais tout à l'heure que vous prévoyez pas trop à l'avance. Enfin, il y avait un aspect comme ça. Et effectivement, quand on va sur votre site, j'ai regardé pour préparer une émission hier, je me suis dit, tiens, j'ai regardé leur programme de saison, comme on a dans les théâtres, le programme de saison, là, avec
et
éventuellement non, la plaquette.
Et non, il n'y a pas de saison.
Bah oui, c'est ça.
Parce alors. Que c'est une volonté, en fait, d'accorder aussi des temps de résidence, d'être au plus proche, je pense, pour Anne, tu pourras en parler, effectivement, que d'être proche de la création actuelle. C'est-à-dire que si on se met trop en avance, comme ouais. En musique, 2 ans, on sait déjà ce qu'on va tourner, c'est pas forcément l'idéal.
Bah, par expérience encore, j'ai vécu ces courses pour diffuser une œuvre ou un projet ou une proposition. Et donc, la limite de la chose, c'est que l'expérience m'a montré que finalement, peut-être, on a 2-3 dates dans un théâtre, mais ça se passe 1 an et demi, 2 ans après, et on a perdu tout désir. Enfin, on n'est plus du tout en phase avec la création initiale. Ne serait-ce que parce que parfois l'équipe a dû changer. En face, l'équipe du théâtre, c'est un projet parmi tant d'autres. Donc, on est un peu comme ça, boum, boum, boum. Mais il n'y a pas plus, c'est noyé, quoi. Donc, je pense que c'était pas du tout mon intention de reproduire ça. D'abord aussi parce qu'économiquement, le générateur n'est pas un garage, mais ça ne veut pas dire que les théâtres le sont, mais on n'accueille pas, on n'est pas prestataire de service, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se pose et qui repart tel quel. Non, on est dans un processus de transformation mutuelle, de travail ensemble. On accompagne un projet d'artiste, il vient, il est en résidence, on essaye de l'aider sur sa production. Et les choses se modifient en route, forcément. Et y a une prise de risque mutuelle. Quand j'accueille un artiste, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis convaincue de la rigueur qu'il a, qu'il soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, dans sa démarche, de son projet. Et en un rendez-vous, c'est fait, quoi. Après, je ne vais jamais prendre mon téléphone en disant « voilà, j'aimerais vous voir chez nous ».
Ouais, ça va rien dire.
En fait, et puis, il n'y a pas non plus d'appel possible. À projet.
Voilà, il n'y a pas d'appel à projet. En fait, tout se fait par porosité directe avec un réseau d'artistes qui grandit, qui me dit, il y en a un qui me dit, tiens, tu devrais vraiment aller voir, rencontrer. Et puis, les gens viennent et ça se fait comme ça.
Et vous êtes, vous êtes sollicité, par exemple ?
Oui. Ah, oui. Ouais. Bah oui, là, Chala, c'est toi qui as ce rôle ingrat, souvent.
Oui, on est sollicité. Après, il y a, comme disait Anne, on est plus sur des rencontres et des échanges, ou parce qu'on nous a parlé de tel artiste, on est allé voir aussi dans d'autres lieux, plutôt que des appels à projets très larges, dans la masse, noyés. Voilà. Après, il y a des artistes, effectivement, qui nous appellent, qui ne connaissent pas forcément le projet ou qui ne le comprennent pas. Donc, ils demandent, vous avez combien de salles ? Et qui disent, est-ce qu'on a des gradins ? Donc, bon. Là, c'est clair qu'on n'est pas fait pour accueillir ce genre de projet. Mais après, d'autres, effectivement, qui commencent à proposer.
Ouais. C'est sûr. C'est compliqué parce que, on est victime. C'est la limite du projet de générateur.
C'est une crise de croissance.
Oui, là, on est à un moment où on ne peut pas faire plus. Et puis, il y a des fidélités qui se sont déjà réalisées. Et on fonctionne aussi là-dessus. Donc, finalement, les places nouvelles ne sont pas si nombreuses que ça. Parce que c'est long de nous approcher. Parce qu'on est submergé de travail aussi. Déjà, bien faire ce qui existe et ce qui est en cours. C'est un vrai challenge au quotidien. Donc, à ce niveau-là, je dois dire que je regrette de ne pas déjà répondre souvent correctement aux artistes qui proposent parce que je ne peux pas, je n'arrive pas.
Alors, pour revenir sur la programmation et le fait que peut-être la meilleure façon d'être au courant de ce qui se passe, c'est d'aller voir le site internet. Peut-être c'est le moment de le préciser. De consulter. Et Sheila fait très bien son travail, d'ailleurs. Aussi, parce qu'on reçoit régulièrement les... Voilà, si on est abonné, enfin, je ne sais pas si on dit abonné.
Oui, on est abonné à newsletter.
Pour ça, je pense qu'il suffit d'aller sur le site.
Oui, grâce à Birgit aussi, qui est notre graphiste, quand même... On souligne, il y a peu de temps, fait la refonte en fait, de nos deux sites, puisqu'il y a un site pour le générateur et un site pour le festival Frasque. Ouais. C'est une volonté aussi de faire en sorte que Frasque soit aussi un peu une entité à part, même si on l'initie complètement et que la plupart des projets sont au générateur. C'est aussi une visibilité pour nos partenaires et pour notre réseau, parce qu'on fonctionne aussi avec un réseau. Donc voilà, ces deux sites-là, effectivement, permettent de mettre à disposition un peu toutes les informations autour de notre programmation. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de saison, mais c'est une volonté artistique.
Alors, on va venir à Frasque, mais avant, j'aimerais bien que vous nous, l'une comme l'autre, nous donniez des exemples de ce qui a eu lieu au générateur pour donner envie. Enfin, moi, j'ai quelques petites idées de ce que. Qu'est-ce qui a eu lieu, et puis peut-être aussi des tuyaux sur ce qui va venir en dehors de Frasque.
On vient d'écouter David Noir, pour le coup, voilà, un artiste, ça fait maintenant, ça va être la quatrième année où il va proposer une création. On l'a découvert par hasard, invité par François Chéniaud d'ailleurs et Benjamin Ducane, il y a 4 ans. Et j'ai été saisie par sa proposition. Il était tout seul, il a apporté tout son matériel, complètement autonome. Et puis voilà, c'était tout d'un coup un univers magnifique d'écriture. C'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien. Et il a une perception du monde qui me semble particulièrement... en avance, si on peut dire, ou en tout cas juste très 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 aigu sur les enjeux qui existent en tant qu'artiste dans le monde d'aujourd'hui, puis aussi sur un plan général actuel. Donc on a commencé ce compagnonnage et voilà, il fait partie des quelques artistes qu'on tient vraiment à soutenir parce qu'il rencontre d'énormes difficultés par rapport au système.
Ah oui.
Ah bah oui, parce que justement, ce qu'il propose, il rentre dans aucune case. Et puis, ses propos peuvent être parfois très subversifs, mais pas dans le sens premier,
pas provocateur,
oui. Agressif. Mais ça touche à quelque chose de très profond, comme aussi peut l'être Alberto Sorbelli, qui va comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'écriture même de la forme de sa proposition, il a un bras de levier qui est très puissant et peut être très dérangeant.
Ouais. Vous savez, nous, on est plutôt une émission musicale, la plupart du temps, pas tout le temps, on fait ce qu'on veut, après tout. Et puis, on ne s'en prive pas. Je sais qu'il y a des musiciens proches de ce qu'on peut diffuser, nous, qui passent au générateur. Je pense à Jean-François Pauvreau, et même Keiji Aino.
Oui,
oui. Ouais.
Ah, ça, c'était
c'était un concert
mythique. Jean-François, c'est mon complice depuis plus de 25 ans. Hein. J'ai dansé, on a fait des duos d'improvisation, il a fait toutes les musiques de mes chorégraphies, donc on se connaît quand même pas mal. Mmh. Et c'était clair qu'avec le projet du générateur qui comme ça s'écartait de la trajectoire classique d'une compagnie de danse dans laquelle je le faisais intervenir et régulièrement, il allait apparaître aussi. Et je dirais pas qu'il est le directeur musical, parce que ce serait quand même exagéré. Mais forcément, on échange beaucoup là-dessus. Ouais. Et il y a une police esthétique qui s'opère dans le bon sens du terme. Ouais. Parce que, la preuve, c'est que grâce à lui, il y a eu ce concert incroyable avec Eiji Aino et Makoto Kawabata. Qui a été un peu le premier gros concert au générateur. Mmh. Mais on ne peut pas... Le concert génère aussi un type particulier de moyens techniques, une configuration, un public vraiment aussi spécifique. Donc, il y a des concerts réguliers, mais il n'y a pas non plus de...
C'est pas une programmation musicale.
Ouais, non, à part entière. Bon, là, avec Jean-François et Charles, on a fait un projet, là... Enfin, c'est même pas un projet... en juin dernier, le Grand Écart. Ouais. On s'est retrouvés réunis tous les trois.
Danse, poésie, musique.
Alors, moi, je vous invitais le jour où j'ai vu aussi Metamkin dans vos lieux. Je me suis dit, c'est trop bien ce truc-là. Enfin, Metamkin, on les connaît depuis 20 ans. Je les ai encore vus la semaine dernière à Frac. Ouais. Mais alors, je crois qu'au générateur, ça a été quelque chose de waouh. Je les avais jamais vus dans une forme comme ça, avec projetant sur tous les murs.
Ils sont vraiment adaptés, en fait.
Ils ont vraiment investi le truc. Ce rideau-là, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et un super
manipuler
souvenir.
Manipuler les sons au sol, comme
c'était très beau.
Et là, c'est notre relation avec la mise en circuit.
D'accord.
Le Festival Extension.
Ah oui,
depuis 4 ans, se pose une fois par an au générateur, puisque l'espace permet... Ils n'ont pas de lieu... et leur festival se...
nomade.
Vous avez pas mal de relations comme ça avec d'autres lieux.
Oui.
Vous accueillez d'autres festivals
Déjà la mise en circuit avec le Festival Extension, pas mal de relations avec Anigra aussi, qui est à Arcueil, donc lieu plutôt pluridisciplinaire, mais avec qui on
mutualise des tas de choses, on se complète. C'est sûr que au début du générateur, je pouvais rester toute seule comme ça, regarder autour de moi, puis commencer à... Non, c'était juste pas possible. Mmh. J'aime la rencontre, donc il était d'abord question de d'évaluer toutes les structures proches ou disons qui pouvaient partager une même orientation ou une partie d'orientation. Donc c'est le FRAC Île-de-France avec le plateau. Il y a eu une grosse pièce qui avait été proposée, la vidéothèque mobile de Fabrice Gigi. Arcueil avec Annie Gras. On échange des projets d'artistes. Elle a une capacité de résidence plus importante que nous. Enfin, il y a des complicités.
Il y a un réseau également actif. C'est quoi ça?
C'est un réseau de lieux indépendants en Île-de-France.
Ouais.
Donc,
il y a pas mal de lieux.
Il y a énormément de lieux qui finalement sont assez différents dans leur ligne artistique, mais qui se réunissent sur l'aspect indépendant dans le sens
transdisciplinaire.
Dans le sens où ils sont tous nés soit associatifs en fait, soit de sociétés civiles, comme Anne, la
compagnie de théâtre, de danse.
Donc c'est un réseau qui est amené à mutualiser des équipements, la communication aussi, mais surtout un enjeu politique auprès des autorités.
Alors ils ont un site également qu'on encourage nos auditeurs à aller
à
voir.
Visiter.
Sur les projets à venir, allez, un petit tuyau.
Pauvros.
Oui, alors on accueille cette année en résidence, c'est assez étonnant même à dire, Jean-François Pauvros.
Tiens.
On a réussi à joindre les deux extrêmes, c'est-à-dire l'anarchie, la liberté, l'improvisation et puis l'institution.
Ah oui.
Et certainement, c'est effectivement grâce au générateur et à moi qui fait le grand écart.
Ah ben,
ouais. C'est
mais on a réussi à avoir une aide du CNV pour lui, une aide de la DRAC
ah oui.
et une aide du département du Val-de-Marne.
Eh bien, bravo.
Bravo. Donc, il n'en revient pas lui-même. Donc, ça a été beaucoup de travail de notre côté. Et donc, il va présenter une création, un concert avec pas mal de musiciens.
En 2015.
En 2015, le 20 mars.
Bon, bah, ça, c'est bonne nouvelle. Donc, Jean-François Pauvros en résidence au Générateur à venir. Et l'an passé, enfin cette année encore, c'était Charles Penquin, qui est d'ailleurs son complice pour quelques projets. Alors, ça nous amène au frasque. Allez, il est temps quand même d'en parler. Présentez-nous déjà le frasque, comment ça s'est créé, pourquoi et qu'est-ce qui se passe.
Frasque, d'abord, le nom appelle à ce sens français, hein, mmh. faire des frasques. Après, on lui a un peu coupé la chic pour que ça devienne un terme, un mot nouveau.
Ouais.
On a enlevé le UES, puisque c'est souvent quand même au pluriel.
Ouais.
Et l'idée d'une rencontre, on n'a pas dit festival, même si parfois on l'emploie quand même.
C'est vrai, oui.
Hein, mais ouais. voilà, ça situe quand même un peu l'esprit de l'événement qui se développe sur 4 week-ends, donc pendant 3 semaines, et qui démarre avec la Nuit Blanche et qui finit fin octobre.
Donc ça démarre demain, samedi 4 octobre, et ça démarre par... oui, effectivement, c'est la Nuit Blanche et...
Charles Penquin et l'Armée Noire.
Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce projet-là, c'est... Peut-être on n'a pas parlé de ça aussi, c'est l'aspect déambulatoire.
Oui.
Que je trouve vraiment... Moi, j'adore ça.
Quoi. Et même parcours, parce qu'il se trouve, en fait, que Nuit Blanche, Paris, a cette volonté, cette année, de mettre un peu en évidence le sud de Paris. Donc, ça tombait bien pour le générateur.
Enfin.
Et alors, après, Nuit Blanche, ça fait depuis 2007-2006 que le générateur est en partenariat. Mais là, cette année, il y a vraiment un soutien de la ville de Paris qui nous a mené à faire un projet en parcours, donc au Parc Montsouris avec Charles Penquin. Donc Charles Penquin, lui, il était en résidence toute cette année, résidence écrivain au Générateur. Donc ça, voilà, c'était ponctué de différents temps et rencontres avec le public. Et puis, Nuit Blanche va marquer un peu la fin de cette résidence. Il s'accompagne d'une armée noire. Donc dans cette armée noire, il y a Quentin Faucompré, Benjamin Collin, Charles Dreyfus. Voilà, toute une...
Didi
Cœur Pur, un sacré personnage. Donc des poètes, des dessinateurs et un groupe d'étudiants et autres personnes.
Issues d'écoles supérieures des Beaux-Arts.
D'accord.
Parce qu'il a lancé en fait un appel cet été pour organiser un workshop dont il a fini la semaine workshop, qu'il a nommé Comprendre la vie.
Donc ça a démarré hier.
Voilà.
Et ça finit donc avec la Nuit Blanche. Donc ils vont participer, tous ces étudiants, ils sont 18. Hein.
Oui.
Et là, ils sont dans une écriture collective dans la ville. On a eu les présentations hier matin, et puis on est monté au bureau, on est redescendu, ils n'étaient plus là. Et ils sont revenus à 19h. Et Charles les avait emmenés, place d'Italie, dans le métro, le parc Kellerman, avec des mégaphones, à tester comme ça des textes de lui, et puis aussi faire des actions dans la ville.
Ah, bon alors, ça démarre où précisément ? Parce que j'ai lu au parc Montsouris, mais c'est...
C'est ça démarre au parc Montsouris.
Mais c'est grand, le parc Montsouris.
Square à musique.
Ouais, Square.
Square à musique, je pense que là, il y a un petit kiosque. Oui, c'est
un
kiosque
à musique. D'accord. Ouais.
En face du restaurant.
Ouais.
Voilà.
Okay.
Et après, on va sortir du parc Kellerman, Montsouris, descendre vers la place de Rungis, parce qu'il y a vraiment un nouveau quartier là qui vient juste de complètement se créer.
Ouais.
Initialement, c'était la gare de Rungis, mais c'était en déshérence là depuis de très très nombreuses années. Et après, on passe sous les maréchaux. Et on va un stop encore par Kellerman. Et ensuite, ils finissent au générateur. Ils devraient arriver, si tout va bien, vers 22h30.
C'est ça.
Et après, ils rejoignent des artistes qui seront déjà sur place depuis 20h.
Ouais.
C'est une double programmation, peu compliquée, mais ça risque d'être assez...
Tout ça pourra être suivi sur Twitter pour avoir un peu les infos sur où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on peut rejoindre Charles Penquin.
Ouais, ouais. Et sinon, le départ, c'est 20h.
C'est ça, 20h au Parc Montsouris.
Voilà. Parc Montsouris.
Et ça s'appelle la Manifiesta.
Oui.
Donc là, ils sont en train de construire ou créer des pancartes, des banderoles, t-shirts. Des t-shirts avec des textes, des flyers, des fanzines.
Ah bah ça fait envie. Et je vois aussi qu'ils seront à midi dans...
Sur la place du marché de Gentilly, voilà. Oui. C'est le temps fort de la ville où vraiment là, tous les gentiliens se retrouvent. C'est un gros marché de... Et donc, je pense qu'ils vont en gros foutre un beau bordel qui va être...
Ça va annoncer en fait la dimanche du soir.
Voilà.
Ah ouais, et le soir aussi, j'imagine que ça va être beaucoup bordélique. Bon, bah ça c'est très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer d'autres temps forts, ce que vous voulez, parmi la programmation ou...
On retrouve David Noir là, qui fait une performance, enfin une action solo qui s'appelle
Défense du masque Hulin.
Du masque Hulin.
Il y a une gesticulation.
Il y a beaucoup de projets, enfin il y a plusieurs projets aussi qui sont réalisés avec des étudiants d'école d'art et de l'université Paris 8. Ça aussi, c'est une des données de Frax depuis le début. Je trouve que c'est intéressant de mélanger des étudiants en art qui sont en devenir et de leur permettre d'expérimenter une proposition performative dans un cadre professionnel, on va dire.
Ah oui.
Et les confronter à un public. Puis il y a des artistes qu'on connaît, d'autres moins, c'est leur première fois. Un autre parcours avec Ornicard.
Oui,
aussi.
Tout à fait, qui est plus sur la. C'est une performance urbaine, voilà, sur la thématique de la résistance. Donc assez politique pour le coup.
Ah. Il y a un aller-retour aussi avec en mai dernier, on a fait tout un partenariat avec une galerie parisienne, la galerie Nivet-Carzon, qui est toute petite galerie à côté de Beaubourg, en plein centre. Et donc c'était intéressant de déporter, de déplacer des artistes du générateur entre guillemets. Ils nous appartiennent pas, hein, je précise, mais dans un espace minimal. Et donc il y a une semaine de programmation là-bas. Et là on accueille la galerie Nivet-Carzon pour une soirée le 24 au générateur en retour avec des artistes sont
et notamment
proches.
Un concert de Jean-Luc Vernat, Gauthier Tassard et Julien Tibéri. Donc si on connaît le personnage de Jean-Luc Vernat, ça risque d'être rock'n'roll.
C'est I Apologize, et donc c'est de la musique. Il y a aussi une carte blanche
à Dimanche Rouge. Ce qui nous permet d'accueillir des artistes en fait internationaux.
Ah oui.
Donc c'est aussi une manière d'un peu de découvrir la scène internationale, de voir ce qui est proposé autour de la performance dans le monde.
Au marché de Gentilly ?
Non, alors il y aura un projet effectivement qui sera... Non, il y a effectivement un projet d'artiste de Dimanche Rouge qui sera en espace public.
Oui, et
dans une voiture.
Dans une voiture, en fait.
Tout ne se passe pas dans une voiture.
La plupart, ça se passe quand même dans
la
salle.
D'accord, c'est quand même un générateur.
Là, c'est exceptionnel parce que l'artiste a vraiment une présentation chorégraphiée autour d'une voiture.
Et puis, il y a aussi une plasticienne que nous aimons beaucoup, Jeanne Susplugas, qui a déjà présenté deux performances. Et là, elle revient avec une nouvelle installation avec des comédiens qui disent des textes le dimanche 12. Il y a aussi une performance qui n'est pas programmée, ou en tout cas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se passer, par David Liver. Va être transcrite juste par deux témoins et lue le vendredi 24 octobre. Donc l'idée d'une performance qui n'a pas besoin de public, mais qui sera juste comme ça retransmise grâce à deux témoins qui vont la décrire.
C'est bon, ça.
Et David Liver ayant déjà aussi participé plusieurs fois à Phrase, qui nous a demandé de façon, pas informelle, mais quand on veut, au milieu, dans la programmation, que par exemple, je décrive une des performances passées de David Liver au public.
Ah oui.
Donc je trouve ça c'est intéressant aussi de prendre cet axe sur justement la documentation, la description orale d'un vécu, d'une expérience performative d'un artiste.
Mais c'est là qu'on voit justement avec cet exemple-là qu'on est vraiment en dehors de tout ce qu'on connaît.
Hein,
et ça, c'est super que ce soit rendu possible.
Ouais.
Et là encore une fois, on re-questionne la question du, enfin, le rapport avec le public et ah oui. le non-rapport avec le public.
Oui, et puis comment, bah, finalement, ce qu'on ressent, bah, va forcément pas être proche de la réalité. Ça oui, peut plus l'être. Donc toute cette interprétation devient une performance en fait aussi. Enfin, etc., etc.
Il y a aussi la deuxième partie de la soirée du samedi 18 octobre qui est assez sonore, on va dire. On accueille à nouveau Violaine Lochu, qu'on avait déjà accueillie en mars dernier, qui est un peu sur la performance voix. Donc, ouais. Elle travaille énormément sur sa voix. Elle a une grande connaissance des cultures du monde entier, ouais. Sur les langages.
Sur le langage. En mars, elle est aussi instrumentiste, elle oui. est une très bonne accordéoniste, mais là, elle ne sera pas, je crois.
Non, c'est vraiment la voix.
Un projet sur l'eau.
Et puis ensuite, il y a Aurore Laloy et Vincent Hanson.
Ah. Voilà.
Quand même.
Exactement.
Quand même. Donc, ils seront sur une performance, alors elle a appelé sonore et sensorielle, puisqu'elle va susurrer des mots doux aux gens. Ça va être quelque chose de beaucoup plus intime. Vincent, il sera au saxophone. Et voilà, c'est un peu une douce performance.
Ah, alors ça va faire du bien aussi. Mais alors, et puis aussi, moi, j'aimerais qu'on dise un mot du dimanche 26. Qu'est-ce que ce bal rêvé
Le bal rêvé, donc, c'est né l'année dernière dans la tête d'Alberto Sordini, un artiste, donc, comme on disait, qu'on accueillit régulièrement au générateur. Et c'est un projet qu'il a voulu populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire éclectique, ouvrir à tous.
Oui.
Voilà, dans cet esprit du bal, donc on y mange, on y danse, on y voit des acteurs, on rencontre des gens.
Voilà, c'est que la fête devient une œuvre aussi en même temps, puisque oui. Il y injecte certaines personnes, certains artistes, certains projets. La configuration aussi dans la salle est particulière. L'année dernière, oui. ça avait l'impression d'être plutôt comme un salon d'exposition, je dirais pas quand même comme à Versailles, mais où il y avait des stands tout autour. Donc c'est aussi une pas une critique, mais si allons-y du système de l'art contemporain aujourd'hui.
Ouais. Aussi complètement remis en question le marché.
Voilà, puisque là c'était des éditeurs, il y avait en même temps une table de poker, un stand pour un médium, il y avait quelqu'un qui vendait du vin, une table d'échecs, un cours de danse de salon. Donc ça a eu un tel succès parce qu'il y a eu un tel mixage finalement de deux mondes, trois mondes, quatre mondes ensemble qui vivent plusieurs heures avec une musique aussi de sound system, d'une battle de DJ qui fait aussi qu'il y a une saturation, enfin pas de saturation, mais il y a plusieurs
des forces,
beaucoup d'informations en même temps. Et pour ça, il rejoint un peu David Noir, où il n'est pas dans une vérité qui va peut-être essayer d'assener à un public. Mmh. Il en propose plusieurs à la fois, parce qu'il part du principe que c'est comme ça qu'on vit, en fait. C'est comme ça que la vie est, et que c'est au public de choisir ce qu'il a envie véritablement de recevoir ou pas. Donc, il devient actif, le public.
Mais c'est vécu comme une expérience collective aussi.
Ouais. Ouais.
Autant on peut se cacher pour aller parler à un médium que danser tous ensemble, ouais. regarder un artiste faire.
Ouais. Enfin. Mais la façon dont l'année dernière, et puis cette année aussi, il conçoit quand même la progression de cette œuvre est tout à fait artistique, avec tous les risques qu'il y a aussi. Et cette année, il y a encore plus d'associations de Gentilly qui vont intervenir sur des disciplines liées au combat, au self-defense, dans la mesure où c'est aussi une métaphore de la relation humaine. C'est l'agression et en même temps, c'est savoir se défendre. Enfin, voilà. Donc, il va y avoir, a priori, de l'escrime, avec en même temps une performance, avec en même temps de la musique.
Et l'aspect combat, mais aussi l'aspect plus sensuel, oui. Les danses orientales, Bollywood...
Ah non, c'est
encore un sacré bordel.
Côté urbain,
freestyle.
Aussi, un peu de tout.
Bon, ça fait envie,
c'est
tout ça.
Énorme, c'est un peu plus écrit cette année, effectivement. Ouais. Il le voit un peu comme un film où il dit que c'est un mélodrame. Donc, l'italien s'inspire du réalisme italien.
Ouais.
Donc,
ouais. Parce que malgré tout, il y a que ce soit dans Penquin, l'écriture, David Noir, je ne savais pas qu'il écrivait. Enfin, Il n'est pas question d'improvisation, pas trop en fait.
Si, en fait, ils ont des partitions en tête et puis ouais. après ça
ils
se
module.
Ils
ont plein de matériel en fait, voilà. et puis ils les ajustent, ils les lient sur le moment.
D'accord.
C'est peut-être ça qui est leur point commun.
Bon, bah, alors là, on a dit un peu tout en vrac et dans tous les sens. Moi, je propose aux auditeurs d'aller voir sur l'excellent site du générateur.
Donc, la rencontre, c'est quand même du 4 au 26 octobre.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
c'est
faut rappeler.
À peu près tous les week-ends, ouais. sauf le mardi 14 octobre à la galerie
Nivet-Carzon. Et puis il y a les salons de frasques aussi.
Donc, il y a plus un moment d'échange, de réflexion. On a
autour invité, des pratiques de performance.
Ouais. On a invité pour le coup le collectif Dimanche Rouge à co-organiser ces salons.
Donc bah voilà, les auditeurs peuvent aller sur le site internet, parce que c'est legenerateur.com tout simplement.
Alors pour le festival, du coup, la rencontre, ça va être frasque.com.
Bien sûr. Frasque.com. On peut dire l'adresse et le prix d'entrée.
Alors,
si tant est qu'il y en ait.
Et ben voilà. Donc jusqu'à l'année dernière, c'était effectivement l'entrée gratuite. Et puis à un moment donné, bien sûr, les financements font qu'on a voulu organiser une participation solidaire. Et donc cette année, ce sera 5 euros la journée.
5 euros.
Et la nuit blanche est...
Et une nuit blanche gratuite, entrée libre, puisque c'est l'événement partenariat avec la ville
D'accord.
de Paris.
D'accord, bah, c'est très bien tout ça. Le générateur à 100 mètres de Paris, vraiment...
13e.
Paris 13e, c'est vraiment... moi, je viens par l'arrêt du tramway
oui,
T3.
Voilà, soit le T3 qui fait le sud, soit même le bus 57 à Place d'Italie.
Ouais.
Il dépose au pied de la salle.
Ouais, ouais. Et puis voilà, c'est vraiment à côté de Paris. Et ce qui s'y passe, c'est vraiment très, très bien. On a pu se rendre compte aujourd'hui. L'adresse est 16 rue Charles Frérot à Gentilly. Eh bien, Anne et Sheila, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce lieu. On va faire quelques annonces, mais avec quoi vous voulez qu'on termine musicalement l'émission?
Encore de Charles Penquin.
Oh bon.
Une overdose de Charles Penquin. Bah oui, parce qu'il faut tous venir à Nuit Blanche demain, donc on va écouter du Charles Penquin.
Eh bien, ça marche. Merci beaucoup à vous deux. À très bientôt,
merci.
Alors à demain soir.
On vous attend au générateur.
Ça marche. Alors, les annonces ce soir, concert de Olympe Trio avec Alexandra Grimal, saxophone ténor et soprano, Stéphane Payen, saxo, et Sylvain Catala, saxo. Trois saxos au souffle continu, 20-22 rue Gerbier, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce soir également, l'émission proposée par l'émission Blues en Liberté de Radio Libertaire, qui est diffusée tous les mercredis à 10h30. Il s'agit de Gunsmoke Blues, tournée par l'équipe télé d'un feuilleton américain. En pause, ils saisissent l'opportunité du passage d'une tournée de blues à l'affiche Big Mama Thornton, Big Joe Turner, Muddy Waters et l'harmoniciste George Smith. Filmés sur scène comme dans des interviews à brûle-pourpoint, ils sont au meilleur de leur forme. Donc c'est entrée libre au 145 rue Amelot à la librairie Publico dans le 11e arrondissement de Paris. Au même lieu demain à 17h30, rencontre autour des concerts acoustiques Marcel Aiglin et Françoise Vincent. Avec Sylvie Hope, c'est organisé par les Mots et Musique. Et c'est également entrée libre au 145 rue Amelot. Demain, samedi 4 octobre à 20h, concert du trio Rive avec Jacques Dinonato au saxophone, clarinette, Thierry Vasignac, batterie, percussion, Gaël Mével, piano, violoncelle. Ça se passe à Hackenbush, 3 rue Raymond Fassin à Malakoff, métro Malakoff, plateau de Vanves. Ligne 13. Enfin, dimanche 5 octobre, dimanche, concert les Dimanches de l'Impro avec Print, Sylvain Catala au saxophone, composition, Stéphane Payen saxophone, Jean-Philippe Morel contrebasse, Franck Vaillant batterie, ainsi que le duo Thierry Marietan contrebasse et Francis Larvor électroacoustique. Alors ça se passe à la Guillotine, 24 rue Robespierre à Montreuil, métro Robespierre à ligne 9. Durant cette émission consacrée au générateur, vous avez écouté un large extrait de « La ville est un trou » de Charles Penquin et Jean-François Pauvros, tiré de l'album « Tuer mon amour ». Charles Penquin « Un jour », puis David Noir « Loin des rodéos ». Et enfin, je vous propose pour nous quitter d'écouter Charles Penquin « Ton pain ». La semaine prochaine, une émission extraordinaire autour de l'art des bruits de Luigi Russolo avec, entre autres prestigieux invités, Philippe Blanchard qui nous parlera de l'art des bruits. Voilà, je vous laisse avec nos excellents camarades de sortir du colonialisme et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut !
Ton pain, il est dégueulasse, je vais à la boulangerie, je vais bouffer ton pain, mais je peux pas sentir qu'on puisse foutre des trous. Ton pain, il a des trous, c'est du pain à trous, et tu nous voles, je vais te faire sauter ta boulangerie. Si tu nous fais encore de la merde, je te la fais bouffer, je te fais sauter les fourneaux, ton pain tout cramoisi, comme ça tu feras plus ton pain dégueu d'artisan de mes deux. Si je pouvais, j'irais à Point Chaud, moi il est pas troué, le pain à Point Chaud, et le mec de Point Chaud, il est sympa le gars, il dit toujours bonjour, il me serre la main tous les jours, il m'a même déjà donné un sac à pain Point Chaud, tandis que toi, la grosse vache avec ton con de boulanger, je vous fais sauter la baraque, le magasin, ton pain à trous, tes croissants tout resséchés comme les vieilles gueules qui vont encore chez vous, comme le pain au choco cramoisi, toutes les pâtisseries qui sont pas si dégueu, si au moins vous faisiez du bon pain, mais trop tard, je fais tout sauter, dommage pour le multicroque et pour le brio pain, mais il y en a un Point Chaud du brio. Le gars de Point Chaud, je lui fais pas sauter la gueule jusqu'au jour où il me fait du pain à trous comme toi, grosse vache, je vais te le faire bouffer. Lui au moins il me dit bonjour, toi c'est ah, mais pour le blé t'es là, mais pour nous vendre de la merde, ah mais tu vas le regretter de m'avoir vendu ton pain avec tous ces trous que je peux même pas mettre la confiote, et les mômes ils disent putain fais chier, encore du pain de la grosse vache, maman quand est-ce que tu lui fais sauter la boulangerie à cette grosse vache.